Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir? Comment se démarquer? Et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de découvrir l'interview que j'ai menée avec Pascal Délé, vidéaste de renom. Une interview vraiment, vraiment inspirante qui, j'espère, te plaira autant qu'à moi. Je te laisse écouter. Hello Pascal, je suis ravie de t'accueillir ici. Je te suis depuis tes débuts, finalement, qui étaient en même temps que les miens. on a commencé la même année, en 2012. Ouais. Et tu es un des pionniers, finalement, de la vidéo dans le mariage. Donc, je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui.
Eh ben, écoute, c'est un immense plaisir que tu m'accueilles, justement. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation. Et comme tu dis, oui, là, je commence à accuser le coup du temps, là. Tu vois, j'ai des petits poils blancs là, qui sous le menton. Et oui, on a commencé ensemble et en 2012. Donc, je suis ravi d'être ici aujourd'hui.
Je me souviens même que je t'avais... Alors, c'est finalement François de Ricordio qui avait fait la vidéo de mon lancement quand j'étais wedding planner, parce que j'avais fait une soirée de lancement. Et je t'avais quand même contacté en premier, je crois.
C'est vrai?
Ouais.
Donc, oui, c'est fort probable.
Ouais, c'était 2012, donc ça date un peu. Mais je me souviens de ça. Je me souviens de ça parce que, ben, pour moi, voilà, je te l'ai mis dans le guide de préparation de cette interview. T'as été un des premiers à introduire le storytelling, une dimension vraiment cinématographique dans tes vidéos. Et je me souviens même d'une vidéo particulière qui m'a particulièrement touchée. C'était celle à Marrakech. Je sais pas si tu te souviens de celle-là, mais moi, je m'en souviens.
Oh, bah, bien sûr. Je me rappelle de toutes mes vidéos. Mais bien sûr, Marrakech, je m'en souviens très, très bien. Ouais.
Ah, mais celui-là, on aurait dit un film, quoi. C'est genre, ça a commencé par la nuit étoilée et tout. Enfin, c'était.
Ouais. J'avais fait un time-lapse. Dans la nuit, enfin, c'était un mariage incroyable et d'autant plus incroyable que le photographe qui m'accompagnait était Xavier Navarro sur ce mariage-là. Et on a été accueillis par des mariés extraordinaires et d'une gentillesse incroyable.
Ça se voyait.
Et c'était mon premier mariage déjà au Maroc et en plus dans le désert. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de fou. Honnêtement, on n'en voyait pas encore des tonnes de vidéos de mariage comme ça, en plein désert. Donc, c'était quelque chose de fou. Et j'avais shooté en RAW. Alors, pour les spécialistes, ils sauront de quoi je parle, mais j'avais shooté avec Magic Lantern. Et ce qui avait apporté aussi une qualité supplémentaire, en fait, à cette production-là.
Alors, comparé à ce qu'ils faisaient encore. Pour ceux qui sont novices, ça veut dire quoi?
En fait, c'est vrai, c'est que en fait à l'époque, quasi tout le monde, enfin la plus grande partie de mes collègues et de mes confrères, ont bossé tous avec un Canon 5D Mark II. Je sais pas si tu te souviens.
Pas du tout.
Canon, non. Voilà. Bon, c'était le boîtier, l'appareil photo avec lequel on, voilà. Ce boîtier-là, en fait, on l'avait poussé à ses limites puisqu'il y avait un espèce de hacking. Qui était sorti à l'époque, qui s'appelait Magic Lantern, qui permettait d'augmenter en fait la qualité de l'image. Et donc du coup, ce mariage-là, je l'ai tourné en RAW avec Magic Lantern, et forcément, ça a rajouté une dimension supplémentaire en fait à la production au film de mariage que j'avais rendu. Donc j'en avais profité effectivement pour apporter cette dimension un peu documentaire sur ce mariage-là, accentuer le côté storytelling, comme tu dis, et le côté cinématique. Donc, c'était le début de ma nouvelle identité visuelle, en fait.
Bon, alors, ça va être notre sujet du jour, un peu. Mais déjà, avant, on va revenir un tout petit peu en arrière. Comment t'es devenu vidéaste et qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que je ne sais même pas.
Ouais. En fait, j'ai fait des études de plombier chauffagiste et j'étais en sport études. Donc plombier chauffagiste, j'ai eu mon CAP BEP que j'ai eu. J'ai commencé à, donc je vais te faire ça assez rapidement. J'ai bossé pendant un an et demi en tant que plombier dans la Meuse. Ensuite, au bout d'un an et demi, je suis parti parce que je m'entendais pas très bien avec mon patron et j'ai atterri dans la téléphonie parce que j'étais fan de technologie. Et donc j'achetais avec ma paye, j'achetais des téléphones portables à l'époque. Et j'ai bossé après, j'ai gravi un peu les échelons dans le commerce où j'étais au départ vendeur. Après, je suis passé responsable de boutique. Et après, j'ai navigué un peu dans différentes enseignes. Mais au total, ça a concilié à peu près 10 ans en fait dans le commerce entre SFR, différentes enseignes. Et à l'aube de mes 30 ans, j'ai voulu changer. Puisque j'avais mon frère qui était infirmier libéral, j'allais tous les étés en fait à Marseille chez lui en vacances. Et un jour, il m'a dit de faire une tournée avec lui. Donc j'ai fait une tournée. Donc une tournée, c'est on se lève le matin à 5 heures du matin et puis on fait une tournée pour aller voir les patients. Et à la fin de cette journée-là, en fait, j'ai eu comme une espèce de révélation où je me suis vu à travers lui et je me suis dit mais j'adorerais faire ce qu'il fait. Et donc j'ai commencé à faire les démarches pour être aide-soignant. Donc j'ai passé mon concours, j'ai eu mon concours, je suis rentré à l'école d'aide-soignant, j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Je faisais des vacations de nuit à Marseille et à l'époque j'habitais à Arles et après j'ai bossé à l'hôpital de Arles en gériatrie. Et à côté de ça, en fait, je faisais un peu de vidéo. Mais vraiment de la vidéo loisir, un peu de photo aussi de loisir. D'ailleurs, j'ai commencé par la photo en fait. Avant d'être dans la vidéo, j'ai commencé par la photo. Et très vite, cette passion pour la vidéo m'a submergé. C'est-à-dire que ça devenait un peu obsessionnel puisque j'avais compris que le but de ma vie, en tout cas, je prenais du plaisir à raconter des histoires, que ça soit des histoires pour ma famille, pour des amis. Et voilà comment que j'ai commencé en fait la vidéo. Donc au bout de un peu plus de 6 mois à travailler à l'hôpital de Arles, j'ai fait une vidéo, un save the date d'amis qui se mariaient au lac de Côme. Et je l'ai.
Bon, t'avais bien commencé déjà.
Ouais, j'avais bien commencé, mais bien sûr, ça a été un formidable tremplin puisque c'était un terrain de jeu extraordinaire, le lac de Côme, très romantique et. Et puis, c'était à l'époque où les saves the date étaient vachement à la mode. Je regarde aujourd'hui,
il y en a
quasi plus.
Ouais.
Ah ben, il y en a quasi plus, quoi. Le save the date, c'était quelque chose d'incontournable avant la vidéo de mariage. Et puis, c'était une manière originale aussi d'annoncer la date de mariage aux invités, à la famille et les amis. Donc, cette vidéo-là a été publiée sur le blog de la Mario Pieds Nus. Et ma vie a changé à ce moment-là. Voilà, je me rappelle, c'était la date de publication, si je dis pas de bêtises, ça devait être le 21 octobre 2011.
Oui. Pour être précis. Donc c'était avant 2012, finalement. Tu t'es lancé avant moi, finalement.
Bah, j'étais pas officiel. Enfin, si, oui. J'avais monté ma. J'étais micro-entrepreneur à ce moment-là, avant que la vidéo sorte. Mais officiellement, je m'étais lancé en micro-entreprise pour me dire ça va être un petit complément de mon salaire d'aide-soignant. Mais j'avais aucunement vocation à faire que ça dans la vie, en fait. J'aimais mon travail et pour moi, c'était vraiment du truc loisir, quoi.
Voilà. C'est incroyable, et puis, ce parcours. J'ai bien fait de te poser la question.
Bah ouais, non, mais c'est. Oui,
mais attendez pas du tout.
Mais c'est ce qui fait aussi, je pense, c'est ce qui me construit, en tout cas aujourd'hui.
Clairement.
C'est ce qui m'a construit. C'est sûr.
Et comment tu as eu l'idée et l'envie finalement d'introduire justement cette partie storytelling, cinématographie dans tes vidéos? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Est-ce que c'était un truc que tu as eu tout de suite?
Non, c'est pas un truc que j'ai eu tout de suite. C'était un peu enfoui au fond de moi-même. C'est-à-dire que j'ai été, en fait, sans être cinéphile, j'aime qu'on me raconte des histoires en images, donc... Je suis quelqu'un qui est ultra sensible à ce que j'entends, à ce que je vois. Donc, dans les films qui ont bercé mon enfance, en fait, j'ai été vachement sensible à certains films cultes qui m'ont marqué et qui provoquent des émotions très fortes. Et en fait, dans la vidéo de mariage, on parle réellement d'émotions. Donc, c'est quelque chose de très important. et on est obligé de raconter des histoires. Et en fait, quand j'ai commencé la vidéo de mariage, à faire des vidéos de mariage, moi, je m'étais basé sur un modèle qui existait à l'époque, qui s'appelait Stillmotion. Stillmotion, c'est le papa de tous les cinéastes de mariage au monde, puisque c'est eux qui ont commencé et qui ont développé et qui ont introduit la vidéo de mariage nouvelle génération, avec ces fameux boîtiers Canon 5D Mark II. Et en fait, leur film, donc c'est une boîte américaine, et en fait, leur film était conçu comme... il y avait un vrai storytelling, en fait. Il y avait un vrai storytelling. C'était des gars qui sortaient d'école de cinéma aux États-Unis, et puis ils ont dit, bah tiens, on va faire de la vidéo de mariage, quoi. Mais les mecs, ils ont fait la vidéo de mariage, mais à un niveau hyper élevé et très cinématographique. Alors, en tout cas, très cinématographique dans l'approche, dans l'image et dans les compositions. Et en fait, ça, ils ont irradié le monde entier. Sauf que l'erreur que la plupart des personnes ont fait, c'est que on a voulu reproduire exactement ce qu'ils faisaient eux à l'époque. C'est-à-dire que leur film a été une inspiration pour le monde entier. Et le problème, c'est que à un moment donné, moi, je me sentais un peu coincé dans cette espèce de notice, parce que pour moi, c'était une notice, en fait. C'était, il fallait regarder ce qu'ils font pour voir ce qui est bien de faire. Mais...
pour l'appliquer directement sans réfléchir.
Quoi. Ouais, bah, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi je dois faire un travelling sur les chaussures? Non, mais en fait, ça a du sens. Ça a du sens de se poser la question. Parce que ça n'a pas de sens de faire un travelling sur les chaussures. Tu vois? Et je me suis posé la question, pourquoi je dois accrocher la robe sur un arbre? Voilà, sur un cintre, sur un arbre. Mais à quel moment? Pourquoi? Et qui a dit, tu te dois d'avoir ce plan-là? Pourquoi je dois avoir le travelling en avant, dans l'église, par terre, avec... pourquoi? Donc, c'était des choses qu'on faisait machinalement parce qu'on avait vu. Parce qu'on avait vu ce qui se faisait. Et on pensait que c'était ça qu'il fallait faire. Et en fait, pendant, je crois, une saison et demie, j'avançais, mais malgré que j'avais quand même... ça faisait partie des plans qui étaient... que tu pouvais pas échapper, en fait, quand tu voyais une vidéo de mariage à l'époque. C'était, il fallait ces plans-là. Voilà. Et durant un an et demi, mes premiers mariages, je les ai faits, hein, ces plans-là. Quasi tout le monde les faisait, en fait, tu vois. Donc, j'en ai pas honte. Et puis après, c'est dans la manière dont toi, tu vas amener ces plans-là, dans ta vision aussi, dans la focale que tu vas choisir, ainsi de suite. Donc, tu vas quand même déjà commencer à te démarquer. Mais ce qui était important, c'est que au bout de à peu près d'un an et demi, je suis tombé sur une vidéo de mariage et il s'appelle Francisco Montoro. Ah, tu connais pas?
Non, je connais pas.
C'est un Espagnol. Et en fait, il m'a ouvert l'esprit sur le fait que, en fait, la vidéo de mariage, telle qu'on la connaissait à l'époque, il suffit juste d'ouvrir les portes de la créativité et en fait, on se retrouve sur un terrain de créativité infinie. C'est-à-dire qu'on se mettait des barrières et lui, il a cassé ces barrières-là. Et donc, en fait, j'ai eu un déclenchement dans ma tête en me disant, mais en fait, la vidéo de mariage n'a pas de frontières et n'a pas de limites. C'est-à-dire que c'est pas fermé et qu'on peut réaliser tout ce qu'on veut, en fait. Et donc, j'ai ouvert mon esprit à, mais qu'est-ce que toi, Pascal, tu veux réaliser comme film de mariage? Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est-à-dire que là, tu deviens ultra égoïste, en fait. C'est, tu penses plus au marié, mais tu penses qu'à toi. Parce que c'est avant tout de te faire plaisir, en fait. Parce que c'est un métier de passion, c'est un métier de plaisir. Et il faut prendre du plaisir à ce que tu fais et à ce qu'on fait. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai ouvert mon esprit à me dire, OK, ben moi, ce qui me fait kiffer, c'est de partir dans cet univers-là, quoi. C'est d'apporter une touche très cinématographique, très personnelle aussi, en choisissant des musiques que j'adore et qui me font vibrer. Et donc, je vais l'imposer aux gens, quoi. Je vais l'imposer aux mariés.
Ouais, mais finalement, c'est ça qu'ils aiment, non?
Ben, en fait, c'est un pari.
Ils viennent pour ça, ouais, pour ta patte,
mais ouais,
pour ce que tu es.
Oui, c'est un pari qui est pris à ce moment-là. C'est-à-dire que je vois à côté de moi des univers bien définis, bien distincts. Et puis, moi, par exemple, deux semaines avant, je suis peut-être sorti en boîte Electro House. Et en fait, il y a une musique qui m'a submergé. Et en fait, cette musique-là, dans ma tête, je vois des images de mariage, quoi. C'est des images de mariage qui se projettent. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou. Donc, je Shazam cette musique, je rentre chez moi, je fais le mariage. Et en fait, je veux absolument ressentir ce que j'ai ressenti au moment que j'ai ressenti la musique, parce que j'ai ressenti des émotions. Et en fait, je veux les coller avec les images de mariage. En fait, ça marche à ce moment-là. Et là, je me dis, bah, bingo, en fait. J'ai compris que les émotions et que la musique se transmettaient, enfin, que les émotions se transmettaient via la musique, pas uniquement que l'image.
Eh oui. Ben ça, c'est un vrai truc. Hein. Quand tu regardes une vidéo sans le son, ça, c'est pas du tout le même rendu.
Non, mais c'est quelque chose de physiologique, en fait. C'est-à-dire que je pense que, je sais pas, c'est peut-être de la physique quantique. C'est-à-dire que les vibrations provoquent en nous, chez les humains, quelque chose qui vont nous toucher directement dans le cœur, en fait. Donc, il n'y a pas uniquement que l'image, mais l'image, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça rajoute quelque chose. Mais avant tout, la musique, bah, c'est quelque chose qui se ressent à l'intérieur du cœur. Voilà. On pense, mais en fait, les oreilles, c'est juste le tunnel, c'est juste le chemin. Mais après, ça arrive directement dans le cœur, quoi.
Ouais, je me souviens d'un shoot que j'ai fait avec Marisa et Ghislain. C'était un shooting sur Noël. Et en fait, ils avaient mis une musique, ouais, qui était hyper importante pour eux dedans. Et donc, The Wild Strawberry. Ils me l'ont envoyé. Moi, j'étais dans le métro. Donc, j'entendais, ouais, rien. Mais j'ai voulu regarder quand même la vidéo. Et je leur ai dit que c'était super. Mais ils m'ont dit, la musique, elle était bien et tout. Je suis, j'ai pas entendu. Ils m'ont dit, quoi? Ah oui. Mais il fallait pas regarder dans, ouais, le métro.
En plus, c'est marrant que tu me parles d'eux, puisque je les vois très prochainement.
OK.
Ouais, la semaine prochaine. Ils viennent, je leur fais une formation. Donc, ils vont venir à la maison pendant 2 jours et on va pouvoir justement échanger sur beaucoup de sujets. Donc, voilà. Donc, c'est marrant que tu me parles d'eux. Donc, voilà.
On s'est rencontrés pour cette vidéo et en fait, ça leur a donné envie que je fasse leur cérémonie. Donc, c'est mes chouchous, tu vois.
Ouais. C'est des gens extraordinaires et je suis assez fier de leur parcours. Là, on sort un peu du truc, mais je suis assez, ouais, fier de leur parcours parce que je les ai découverts sur les réseaux sociaux en premier lieu. J'ai vu quelques vidéos et puis je les ai rencontrés en vrai
au Kick-Ass,
voilà. Mmh.
Et ils en parlent d'ailleurs. C'est là que t'as écouté. Ils en parlent dans leur interview de toi.
Ah, peut-être, oui, peut-être, exact. Et en fait, ça a été un. Tu sais, t'as des espèces de visions comme ça qui voient le talent, parce que le talent t'éclate aux yeux, en fait. Donc tu dis, ah, attendez les gars, mais vous êtes là, quoi. Voilà, vous êtes là. Donc c'est bien, continuer et tout, mais sachez déjà que vous êtes là. Donc voilà, donc c'est super. Donc je suis très content pour eux. Voilà.
Ils ont un vrai style unique, ça c'est ouais, c'est clair. On va revenir justement au style unique, mais dans tout ce que tu as dit, j'ai retenu aussi que tu avais des films cultes qui t'avaient inspiré. Est-ce que tu peux nous donner des titres comme ça qui te reviennent en tête?
Ouais, j'ai notamment un film qui s'appelle L'Histoire sans fin. C'est typiquement là je peux t'en parler parce que j'arrive à ressentir exactement les mêmes émotions que lorsque j'ai vu ce film-là pour la première fois, et j'ai encore les frissons qui me traversent le corps. Et c'est typiquement le genre de film où à la fin, tu restes, tu viens de te prendre une claque cinématographique, tu viens de vivre des émotions intenses, et tu restes. Et en plus, à la fin, une fois que le film est fini, tu as une musique qui te maintient perché, en fait. En fait, le film t'a perché, et tu as la musique de fin qui fait na 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 na. Donc c'est un truc qui te maintient en fait suspendu et tu redescends pas parce que tu viens de vivre tellement d'émotions et puis t'as la musique qui te maintient encore et puis toi t'es là devant ton écran et là t'arrives plus à bouger, tu sais plus quoi faire, juste t'es en train de repenser à tout ce que tu viens de voir et après ça tu fais des rêves de la princesse Fantasia pendant 15 jours et tout. Enfin, c'est des trucs de taré, mais c'est, en fait, quand je te dis c'est des trucs de taré, c'est que c'est des émotions qui sont tellement fortes qu'un film puisse te provoquer justement ce type d'émotion où, en fait, tu vas rêver d'être le héros du film, où tu vas rêver parce que t'es amoureux de la princesse Fantasia, la petite blonde là qui était super mignonne et tout, magnifique. Non, mais l'histoire est extraordinaire. Donc, ça mélange le fantastique, l'héroïque, enfin, il y a tout. Tous les éléments sont compris dans ce film-là. Donc ça fait partie de ce type de films qui m'ont vachement marqué, en fait. Tu t'échappes totalement, ou en fait, pendant, je sais plus, 1h30 ou 2h, t'es ailleurs, quoi. Donc si je devais en retenir un, c'est celui-là. Et puis, quand tu regardes à la fin qui l'a réalisé, bah, c'est Spielberg, quoi.
Enfin, je me souviens très bien. C'est pas vrai, je me souviens pas très bien de ce film. Je me souviens très bien que j'ai adoré ce film, que je l'ai vu plusieurs fois, mais j'arrive pas à me souvenir. Enfin, je vois le, ouais. Je sais pas comment ce que c'était. Comme
ouais, ouais, le dragon.
Ouais, dragon, chien.
Le chien dragon. Ouais.
Voilà. Je me souviens très bien de ça, mais par contre, il faudrait que je le regarde à nouveau parce que je sais que j'ai adoré ce film.
Il est et il y a une chose qui à l'intérieur de ce film-là m'a profondément marqué. C'est à un moment donné, il y a le géant de pierre qui parle. Il avait, en fait, le géant de pierre, il est costaud, il est énorme, et il a peur d'une seule chose. Et tu te dis, ce gros géant de pierre, il a pas peur puisqu'il est déjà très fort. Mais il a peur d'une seule chose, il a peur du néant. Ce film-là a réussi à retranscrire en image le néant. Et j'ai trouvé ça fou, fascinant, mais horrifiant. Enfin, j'étais effrayé en même temps, mais donc c'est un sentiment de fascination et de peur, en fait, tu vois. Et j'ai mis un mot, je pouvais mettre une image sur ce que pouvait représenter le néant. Et c'était dans le film et je trouvais ça extraordinaire.
Bon, dites-nous sur Insta si vous l'avez vu, ce film, et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, parce qu'a priori... Enfin, moi, je me souviens que c'était génial, mais je ne me souviens plus.
L'Histoire sans fin, c'est un classique, c'est très culte et c'est pour toute la génération des personnes nées en 1980.
Voilà,
je pense ça. Que tout le monde, tout le monde connaît ce film-là. Les Goonies, tout ça, toute la clique, voilà, c'est.
Mais on n'est plus, de... on n'est plus si nombreux.
Ouais, genre... I know. Eh oui, je sais.
Maintenant, il y a 90, il y a 2000. Il y a 2010.
Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai ma fille de 15 ans qui me dit, papa, j'aurais aimé vivre à, enfin, j'aurais aimé,
naître en même
j'aurais
temps
préféré être né en même temps que toi, ouais. C'est-à-dire, genre, elle veut être ma pote, quoi. Voilà. Parce que, et puis, pour revivre tout ce qu'on a, nous, on a vécu dans notre enfance, c'est-à-dire dans les années 80, comparé à, la jeunesse d'aujourd'hui qui, voilà. Bon, c'est un autre sujet, mais, c'est assez marrant qu'elle soit nostalgique des années 80, quoi.
Clairement.
80 à 90, voilà.
Ok.
Donc, c'est assez marrant, ouais.
Et donc, revenons au sujet dont on parle depuis le début, mais on n'a pas encore été en profondeur dessus. C'est quoi les stratégies que tu as adoptées, toi, pour développer et maintenir ce style unique que tu as créé, finalement?
Alors, la stratégie, elle a été au départ pas une stratégie. Pas une stratégie, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de calculé. Par contre, ça a été quelque chose de volontaire et de volonté. C'est-à-dire que je voulais absolument montrer aux gens ce que je voulais réellement montrer. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir de pression à me dire « tu dois forcément filmer telle chose, tu dois forcément filmer telle chose ou montrer telle chose à l'image ». Donc, je voulais pouvoir être libre de mes choix artistiques. En fait, ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que quand tu commences à penser comme ça, tu commences à construire ton identité. Parce que ça veut dire que les gens ne vont pas s'attendre à ce qui va se passer à l'écran. Ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Et ce sera uniquement ta vision. C'est-à-dire uniquement ce que toi, tu as envie de retransmettre. Et donc, ma stratégie, elle est venue par la suite, au final, puisque quand j'ai commencé à découvrir un peu mon identité visuelle, tu le fais pendant un an, pendant deux ans. Après, tu te rends compte que il faut que tu puisses, et c'est super parce que tu as trouvé ton style visuel, mais il faut que tu puisses après adapter ton style aux mariés. Tu comprends? Et c'est là où ça peut commencer à devenir un peu compliqué, où en fait, tu traverses des univers où des styles peuvent être à l'encontre de ce que tu aimes ou de ce que tu as envie. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être une clientèle très haut de gamme ou qui va pas forcément peut-être adhérer à ton style. Ou l'inverse, tu vois. Peut-être une clientèle un peu moins haut de gamme, mais toi, t'as un style complètement taré et taré très artistique. Il va falloir, en fait, faire matcher, en fait, ces deux mondes-là. Donc ça, c'est compliqué. Et c'est de là où tu commences à sortir une stratégie et une communication visuelle. Tout simplement en refaisant et en étant le plus linéaire possible, mais tout en étant original. Alors, être linéaire, c'est-à-dire avoir une construction de ton film global qui restera toujours la même, avec des marqueurs forts qui vont faire que les gens vont reconnaître que c'est toi qui as fait la vidéo. Donc ces marqueurs-là, alors bien sûr, ça commence par ton logo, mais au-delà de ça, ça va être une introduction de vidéo où tu commences avec un écran noir qui se découvre, ainsi de suite, avec des crédits que j'ai instaurés au fur et à mesure, comme des crédits qu'on peut voir au cinéma. Donc c'est tous ces petits marqueurs-là que j'ai intégrés au fur et à mesure pour dire, voilà, mon style, c'est ça. Mon évolution, c'est ça aujourd'hui. Donc, une fois que j'avais compris ça, je me suis dit, c'est simple, autour de moi commence à émerger pas mal de monde, de tendances en tout cas. Et donc, la stratégie, c'est de ne pas aller vers ces tendances-là, ou ne pas essayer de reproduire les autres tendances qu'on peut voir ailleurs, mais juste de continuer à faire ce qu'on aime et comme on sait le faire en fait. Et ça sert à rien d'aller regarder à droite et à gauche. Et à partir de là, j'ai commencé à arrêter de regarder à droite et à gauche. C'est-à-dire, j'ai commencé à arrêter de regarder les autres vidéos de mariage et à me concentrer sur ce que j'allais produire moi.
Non, mais ce que tu décris, c'est le parcours de quelqu'un qui débute et qu'après, qui prend sa confiance, quoi, je trouve.
Ouais, bien sûr. Oui, qui prend sa confiance sur ce qu'il est sûr de ce qui va lui faire plaisir. Parce que c'est très égoïste à ce moment-là, en fait. C'est de me dire, je vais dans une direction, j'attends pas que les gens me suivent, en fait. Je le fais pas pour les gens, je le fais pour moi, en fait. Donc, par contre, si je peux inspirer des gens, très bien, tant mieux. Mais je sais qu'à une époque, il y avait beaucoup de vidéos qui étaient inspirées de Pascal Délé, entre guillemets. Hein. C'est ce que je regardais un peu sur les réseaux et tout. Alors, premièrement, ça me faisait plaisir, tant mieux. Mais deuxièmement, je comprenais pas trop ce qui se passait, en fait. Parce que j'étais un peu dans ma bulle. Je m'en suis rendu compte après, par la suite, et c'est les gens qui me disaient « Ouais, mais attends, parce que tu te rends compte de ce que tu fais, c'est génial, c'est super et tout, donc du coup, tu nous inspires et tout, ceci, cela. » Et là, j'avais compris que j'étais devenu inspirant, mais que j'étais aussi créateur. Et en fait, en tant que créateur, quand je voyais les gens avec un certain talent et tout, essayer peut-être de s'inspirer de mon travail ou de faire un peu comme moi, je me disais « Mais t'es sur le mauvais chemin, en fait. » Le bon chemin, c'est d'aller chercher au fond de toi-même exactement ce que toi, tu aimes. Et là, si tu sais ce que tu aimes, après, tu le délivres avec ta personnalité, tu le délivres en vidéo, tu vois. Et on est tous uniques. Donc, ce sera forcément des vidéos différentes, en fait.
C'est là, donc, du coup, que tu as compris que tu te distinguais finalement un peu des autres, entre guillemets, et que t'inspirais, là. Donc, c'est à ce moment-là.
Ouais, exactement. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose que certaines personnes retrouvent dans mes vidéos qui ne vont pas retrouver ailleurs. Mais c'est uniquement parce que je fais ce que j'aime. Et si je suis inspiré par ce que je peux regarder à droite ou à gauche, je perds mon identité, en fait. Je perds ce pourquoi les gens viennent me voir, en fait. Donc, ma stratégie, elle est de rester moi-même, en fait, toujours, à n'importe quel moment. Et pour n'importe quel client, voilà. Et de pas me vendre sur quelque chose que je n'aimerais pas faire ou que je n'aimerais pas être, en fait. Donc, la stratégie, elle est là.
Est-ce qu'il y a des opportunités que tu as vécues grâce à ce fait de rester toi-même et à de créer une identité personnelle? Des trucs auxquels tu t'attendais pas et on est venu te chercher?
Oui, bien sûr. Ah bah bien sûr, oui. Et c'est ce qui est fou, c'est que la vidéo de mariage apporte justement, est un chemin direct sur des mondes parallèles, entre guillemets, où en fait, ça t'amène à travailler avec des grandes marques ou avec des grands groupes qui n'ont rien à voir avec la vidéo de mariage, mais ce sont des personnes qui étaient soit qui faisaient partie du mariage, en tout cas qui étaient des invités, qui ont été touchés par la suite, par ma vidéo, et qui m'ont contacté post-mariage en me disant « On a vu la vidéo que vous avez faite pour tel ou tel couple ». C'est complètement dingue. Écoutez, j'ai une société, j'aimerais bien vous embaucher pour une vidéo promo, ceci, ainsi de suite. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé aussi à faire du corporate, qui m'a emmené même à travailler même pour eBay. Et je me rappelle quand j'avais fait ma première vidéo pour eBay, la nana avec qui était responsable communication chez eBay et qui me dit, mais j'ai vu ce que vous faisiez, c'est vous qui faites les vidéos de Rima Rodaki aussi? Ah, mais elle était fan et tout. Donc, ce qui était marrant, c'est que, à la base, cette vidéo de mariage-là, ta mère t'amène à faire de la vidéo de mode, t'amène à faire de la vidéo corporate. Donc, t'amène au final sur des opportunités juste incroyables à bosser pour des marques ou des grands groupes ou alors on t'invite à tel ou tel endroit à cause et grâce à la vidéo de mariage.
Alors, ça me fait penser... alors, on n'a jamais travaillé pour de vrai ensemble. C'est ce que je te disais à la LOL.
Oui.
Mais je me souviens d'une anecdote qu'on a en commun. Je sais pas si tu te souviens, c'était avec Arthur. Où en fait, tu sais, je l'avais booké, moi, sur des mariages. Il se lançait. Donc, je l'avais booké sur des mariages gratuitement. Je sais pas si on peut le dire.
Ouais. Gratuitement. Bah, je sais que...
On verra. Mais enfin je l'avais, voilà, il se lançait, donc je l'avais booké sur un mariage.
Ah mais fois. c'était avant qu'il travaille pour moi.
C'était avant qu'il travaille pour toi.
Oui, et oui, tout
coup,
à fait, ouais.
Il m'a annulé ses mariages pour travailler avec toi. Et je t'avais appelé. Je sais pas si tu te souviens ou pas.
Ah,
et je t'avais dit écoute, je suis deg parce que va falloir que je retrouve quelqu'un, mais après c'est mon métier de wedding planner. Mais je suis tellement fière parce que j'étais sûre qu'il allait être génial, ce mec. Et tu m'as dit, putain, si tout le monde pouvait réagir comme toi.
Mais non, mais...
Ah,
mais
tu t'es fait pourrir. Mais...
Non, mais bien sûr. Mais tu sais, en fait, Enfin, je suis fière d'une chose, c'est que quand je vois le parcours d'Arthur ou les personnes qui ont pu travailler autour de moi ou avec moi... Je suis content en fait parce que je suis quelqu'un qui je trouve ça super gratifiant de pouvoir élever certaines personnes, en tout cas montrer le chemin ou accompagner ou montrer comment en fait délivrer des émotions à travers une image. Donc donc c'est cool, mais oui, je me rappelais plus de cette histoire avec Arthur, mais oui, effectivement, je me rappelle qu'il avait Il avait des mariages à faire et donc je me rappelle.
Et tu m'avais dit que tu t'étais fait, en fait, moi je t'avais dit après c'est mon taf, hein, je vais retrouver quelqu'un, c'est pas un problème. Et
c'est
tu
ça.
M'avais dit je me suis fait ruiner par d'autres wedding planners parce que
Non mais oui et puis non mais c'est clair. Ah c'est hein.
Comme moi, on j'étais dit, c'est. J'étais fière parce que je suis une des premières qui l'a booké finalement et j'ai vu tout de suite, c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'ai vu tout de suite que ça allait être une pépite, ce mec. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu aussi avec Marisa Gislin, tu vois. C'est un don finalement qu'on a hein, de voir le potentiel quand même, je trouve.
Ouais. Non, mais tu ça se ressent quand même assez vite chez les gens, quoi, tu vois.
Mais je sais pas si tout le monde a ce don de voir le potentiel chez les gens. Je suis pas sûre. Je pense qu'on a un don quand on a ça.
Ce qui est marrant, c'est que tu peux voir le potentiel des gens rien qu'en... Parce qu'il y a un truc qui ne trompe pas, c'est leur travail, en fait. Donc, tu peux ne pas voir en physique la personne, mais tu as juste à regarder le travail. Et en fait, ça te donne déjà un aperçu de l'image de son âme, de ce que représente cette personne-là. Enfin, pour moi, c'est ça, en fait. Et je l'ai toujours dit, d'ailleurs, c'est que mon travail me... Et à mon image, je ne sais pas, mais en tout cas... Montre-moi tes vidéos, je te dirai qui tu es. En gros, c'est ça, quoi.
Ouais, après, voilà, je pense à Solène, qui est, que tout le monde sait, c'est ma coachée préférée, c'est ma chouchoute. Bon, voilà, je devrais pas le dire, mais c'est comme ça. C'est la première, donc ça a toujours un petit. C'est Solène de D'amour et d'encre. Elle était à la Love, je sais pas si.
Oui.
Et ben, elle, pareil. Enfin, elle m'avait rien montré, tu vois. Elle m'a juste contactée une première fois en me disant qu'elle trouvait que j'étais inspirante, justement. Et en fait, j'ai tout de suite senti que cette fille était talentueuse, quoi. Je sais pas comment, je peux pas expliquer. Et pourtant, elle a pas fait de vidéo. À l'époque, elle avait
pas
fait de vidéo.
Ouais, non, mais c'est de l'ultra-sensibilité. Et puis, moi, je l'ai ressenti chez certaines personnes. Peut-être, après, d'autres ont lâché en cours de route parce que c'est très dur, hein, comme métier. Faut pas croire, hein. C'est bien beau tout ça, les paillettes, tout ça, machin et tout, mais c'est pas évident. C'est pas un parcours facile, quoi.
Bah justement, c'est une très bonne transition. Ce que j'allais te demander, c'était quoi tes plus grandes difficultés, en fait, dans ce métier, surtout pour le fait de te démarquer, peut-être. Mais voilà, et comment tu les as surmontées?
La plus grande difficulté, ça a été de savoir dire non. Ah, c'est l'une des plus grosses difficultés. De ma vie, c'est de savoir dire non parce que c'est une souffrance de dire non et de dire toujours oui.
Mais c'est une souffrance de dire oui aussi.
Oui, voilà. Mais c'est aussi une délivrance. Mais c'est aussi quelquefois une délivrance de dire non. Et aujourd'hui, je sais dire non. Voilà. Que je ne savais pas faire avant. Voilà.
C'est important, c'est important.
Oh, ben, en fait, c'est super important. Je te dis ça parce que ça fait partie, effectivement, des grosses difficultés de quand t'es un passionné comme moi, parce que j'ai pas fait d'école de ciné, en fait, j'ai pas été formé pour être vidéaste de mariage ou pour être réalisateur ou pour être chef d'entreprise qui doit gérer une boîte de production et ainsi de suite. C'est juste ma passion qui m'a construit et qui m'a animé. Et aussi, mon entourage, bien sûr. J'ai été très bien entouré. Ma famille, mes amis. La grosse difficulté, déjà de savoir dire non. Et puis ensuite, il faut quand même avoir une âme de communicant, d'aimer les gens et aussi d'être chef d'entreprise. Enfin, il ne faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, la passion, c'est très bien. Et si tu peux en vivre, c'est encore mieux. Mais pour savoir en vivre, il faut aimer la gestion. La gestion aussi bien de ses sentiments que la gestion administratif et financière. Sauf que moi, la gestion administrative, ça me gave. Enfin, je veux dire, et je pense que...
comme tous les créatifs.
Pour poser la question. Ben voilà, c'est exactement ça. Je veux dire, c'est relou. J'ai envie de me concentrer sur ce que j'aime faire, pas sur...
le bilan que je dois faire, moi, dans 5 minutes, là.
Ouais, enfin, tu vois. Non, mais voilà, par exemple, tu vois. Enfin, je m'en fous de tout ça. Moi, je veux juste me concentrer et à être créatif, en fait. Donc, je veux avoir le plus de temps possible pour explorer des nouveaux univers et pour évoluer dans ce que je fais.
Tu fais combien de mariages aujourd'hui, par an ?
J'en fais à peu près 4-5. Voilà, 4-5 mariages. Alors, ça dépend des saisons, parce que des fois, suivant le corpo, après, je peux peut-être en avoir un peu plus. Mais généralement, maintenant, 4-5-6... ouais, c'est très bien pour moi. J'en veux pas forcément plus, en fait.
Et combien de corpos ?
Bah, de corpos, ça se compte pas en nombre, mais c'est plutôt des contrats que j'ai avec des clients. Donc, c'est des groupes. Ça peut être comme Maison du Monde, comme en ce moment, bah, je suis avec Lagardère. J'ai Rima Rodaki sur la mode. Donc, tout ça, c'est des trucs un peu récurrents.
Première et fidèle cliente chez toi, du coup ?
Ah bah ouais, non mais Rime, voilà, c'est pareil, ça c'est une histoire d'amour professionnel, tu vois, et d'amitié aussi. Et donc, voilà, donc le corpo, en fait, j'arrive à l'étaler tout le long de l'année, plus avec quelques projets personnels, et donc voilà, c'est ça c'est ce qui me fait vivre en fait, aujourd'hui.
Ok, comment parviens-tu à équilibrer l'innovation et la cohérence de ton identité perso ?
La première chose, c'est que chaque lieu, chaque client est unique, ce qui te permet dans tous les cas d'innover. Ce sera une autre vidéo, ce sera encore différent. La seule chose c'est qui va différer, c'est comment tu vas pouvoir ressentir l'émotion des gens, que les gens vont te donner, que tes clients vont te donner. Et qu'est-ce que tu en fais après de cette émotion-là ? C'est-à-dire que j'ai vécu une expérience extraordinaire sur ce mariage-là. Ça a été soit une émotion triste, ou de joie, et qu'est-ce que j'en fais avec ça ? Et donc, je rentre dans un processus de je vais aller rechercher une musique et je vais aller m'inspirer d'une émission de télé, d'un documentaire, d'une pub, de quelque chose que j'ai vécu, enfin, j'en sais rien, mais je vais aller me raccrocher à des émotions que j'ai ressenties peut-être 6 mois avant ou 6 mois après. En fait, je vais reconnecter les mêmes émotions que j'ai ressenties sur le mariage et cette émotion que j'ai pu... ressentir ailleurs, 6 mois avant ou 6 mois après. Enfin, 6 mois après, 6 mois avant. Et je vais essayer de recoller tout ça et de réunir, en fait, la musique, les émotions, les images, ma composition d'images. Et ce qui fait qu'à chaque fois, c'est quelque chose d'unique. Ce qui fait que, en fait, c'est tout le temps différent, en fait, tu vois. Mais c'est mon processus, en fait, il est là. C'est toujours dans un souci de faire ressentir des émotions et faire ressentir quelque chose aux téléspectateurs, en tout cas aux personnes qui verront cette vidéo-là. En premier lieu, bien sûr, les mariés. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Ouais. Je vais te poser la question que je préfère, que je ne t'ai pas envoyée, mais que je préfère. Donc, si tu as écouté, tu la connais sûrement. C'était à quel âge la pire période de ta vie ?
À quel âge la pire période de ma vie ? Ça dépend, en fait. Enfin, c'est pas que ça dépend, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un peu dans mon enfance. Et après, il y en a eu récemment, il y a cinq ans, où en fait, j'ai fait un petit burn-out, quoi.
Ah, voilà, comme
beaucoup. Enfin, ouais. Comme beaucoup, en tout cas. Je pense être un être humain et voilà. Et c'est quelque chose de pas forcément facile à dire, à avouer et voilà. Donc voilà, ça fait partie de ces mauvais moments de vie que t'as envie d'oublier, quoi.
Et du coup, tu dirais quoi au Pascal qui a vécu ces deux moments-là aujourd'hui avec le recul que t'as?
Eh ben que ces moments-là, que ça soit dans son enfance ou il y a cinq ans récemment, c'est à la fois destructeur, mais ça te construit aussi. Donc c'est en gros de se dire c'est un mal pour un bien et ça te rend plus fort. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'ai vécu dans mon enfance m'a fait la personne que je suis aujourd'hui. Ce que j'ai vécu récemment me fait la personne que je suis encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose, ce ne sont pas des défaites, mais ce sont des reconstructions. Et je trouve ça très, très bien et très fort de pouvoir le voir dans cette vision-là, en tout cas, sur cette vision-là.
Je suis totalement alignée à ce que tu dis. En tout cas, merci infiniment, Pascal. C'était hyper intéressant.
Merci à toi. De rien.
Et puis, peut-être à très vite, je ne sais pas.
Peut-être à très vite. Merci encore.
Merci Pascal.
De l'invitation.
Merci.
À bientôt.
Ciao. Et voilà le gang, merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que tu l'auras aimé autant que moi. Si c'est le cas, partage-la sur Insta en nous taguant Pascal et moi, ça nous fera trop trop plaisir. Et bien sûr, tu sais que tu peux toujours mettre 5 étoiles et un super avis au podcast sur Apple Podcasts ou Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître, tu le sais maintenant. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.